Bonjour à toutes, nous sommes très, très heureuses de vous accueillir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie de se retrouver autour d'une table ronde pour échanger nos expériences, nos connaissances. Et voilà, c'est bien agréable. Donc cette table ronde, l'intitulé de cette table ronde, c'est « Migration, réfugiés, quelle solidarité ?» En ce qui concerne le sujet sur l'immigration, de toute façon, ce sera abordé en filigrane dans vos témoignages, enfin, dans nos échanges. Et pour les réfugiés, ce qu'on peut dire, vous m'arrêtez si je me trompe, les différentes associations que nous sommes, nous militons auprès des réfugiés. Auprès, pourquoi ? Parce que nous mettons en place un dispositif qui leur permettent de ne pas être isolés. Déjà, le fait de les accueillir au sein d'un groupe, d'un réseau, d'un collectif, ça leur permet de rompre l'isolement. Et aussi, le fait de les soutenir moralement et parfois financièrement, ça leur permet voilà, de pouvoir avoir, comment dirais-je, de rentrer dans un processus de migration dans les meilleures conditions. Les différentes associations que nous sommes, nous militons avec les réfugiés, avec, pourquoi ? Parce que ce sont des femmes qui arrivent en France avec leur propre expérience de militantisme lesbien, avec leur propre connaissance d'un milieu homosexuel ou LGBT spécifique de leur pays. Donc avant de nous apporter aussi une connaissance, différentes connaissances, différentes expériences qui vont venir dynamiser notre regard politique et notre militantisme lesbien. Donc elles sont vraiment actives même au sein de nos différentes associations. Ben, pour commencer, nous allons toutes nous présenter. Ben, moi, la première, je m'appelle Judith. Je milite au sein de, entre autres, au sein des associations lesbiennes. Lesbiennes dépassent les frontières et les LOCS, Lesbiennes of Colors. Alors, donc, pour introduire un petit peu tout le monde, moi, je vais commencer par parler de l'association La Lune. Donc, La Lune, qui, aujourd'hui, cette association est représentée par Irène, qui est, à ma droite, et Marissa, qui est à ma gauche. Alors, La Lune, vous êtes une association lesbienne et féministe qui a été créée en 1980. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. En 2009, vous avez lancé dans une action de solidarité avec des réfugiés. Alors, ça a commencé dans l'urgence avec un couple de gays et une femme transsexuelle des Philippines en danger au centre de rétention. Ça a continué avec des lesbiennes, pour l'une d'entre elles rencontrée au collectif contre l'immigration jetable. L'action qui a démarré avec des pétitions et des signatures au niveau local s'est développée en une solidarité nationale à travers la CLF, Coordination des lesbiennes en France. Ce sera votre plus beau souvenir, il me semble. La plus belle réussite. D'accord. Parmi vos caractéristiques, on peut dire que vous avez une grande capacité à mobiliser les militantes, à aller secouer les pouvoirs publics et à organiser des actions d'éclat. Éclat, waouh. Alors, pour une petite anecdote assez amusante. Il y a une association qui s'occupe des femmes qui vivent dans la rue. Vous a même sollicité pour soutenir une demandeuse d'asile ougandaise en vous demandant un certificat de lesbianisme. Alors ça, c'est le top. Ok. Donc, bon, voilà. On reviendra peut-être sur cette anecdote. Bon, la première question, c'est... quelle est l'une des caractéristiques ? Bien sûr, cette question est un peu réductrice parce qu'il y a plein d'actions que vous avez menées. Donc la question, je suis désolée, mais voilà, elle est un peu réductrice. Alors, quelle est l'action que vous considérez la plus caractéristique parmi celles que vous entreprenez
Irène. En fait, c'est difficile de répondre la caractéristique. Je dirais que, en ce qui nous concerne, toutes les actions réussies pour nous, c'est une victoire sur l'impossible. Et ça, c'est simplement géant. Même si en amont, ça a demandé une énergie incroyable d'un groupe, je précise bien, c'est pas Irène ou Marie-Jean, c'est toute une assemblée de personnes, souvent essentiellement des femmes, mais j'aurais du mal à distinguer. Moi, je trouve que toutes les réussites sont juste incroyables. Et c'est ce qui fait notre fierté.
Oui, par contre, c'est vrai qu'en termes de réussite, surtout parce que c'était une première en France, c'était le cas, il avait dit son prénom parce que ce n'est pas son vrai prénom, c'était Nesma. Et c'était avec une solidarité énorme que ça crée, comme tu disais bien, merci à la coordination lesbienne en France. C'était la première fois qu'on a prié, on a plié un préfet. Et ce préfet, c'était la première fois qu'il a cassé la réglementation Dublin 2, en opposant la clause de souveraineté de la France face à cette Dublin 2 qui aurait obligé Anesma à retourner en Italie à l'époque de Berlusconi, étant donné qu'elle était de nationalité libyenne. C'était l'époque où Berlusconi était très très copain de Gaddafi. Donc c'est sûr qu'Anesma aurait fini chez là. Donc le fait d'avoir fait entre toutes et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'associations priées, faire plier un préfet qui pendant longtemps avait reçu Nesma dans un couloir sans l'écouter, sans l'entendre, et qui en quelque peu du temps a été reçu dans une grande salle et traité comme on devait être traité tout étranger qui arrive en France, mais que malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on tenait un petit peu à parler de ces cas-là.
Dans la processus, est-ce que ça a été long justement à rentrer en contact avec les pouvoirs publics, questionner par rapport à la situation de cette personne?
C'est toujours très très long pour nous. Alors vous imaginez bien pour les personnes concernées. Je dirais c'est long, mais je dirais que nous, ce qui nous a le plus choqué et mis dans une colère incroyable, ce qui nous donne aussi la force, c'est l'attitude des pouvoirs publics. Quand vous allez avec une amie réfugiée à la préfecture, pour elle, c'est son avenir qui est là entre les mains de quelqu'un. Et cette personne ne daigne pas la recevoir. Ou elle la reçoit dans un couloir où il y a toutes les autres personnes, dans un capharnaüm incroyable comme dans toutes les préfectures. Et je dirais ça pour Nesma en particulier. Ça s'est passé à 7 reprises, c'est-à-dire sur 7 mois, une fois par mois. Et c'est là à la 8e où c'était dans les mêmes circonstances. C'est là où il y avait un tout petit collectif de 4 personnes. On a pris la bonne femme, pardon de parler comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On l'a pris délicatement sous les bras, on lui a demandé, intimé l'ordre, de recevoir Nesma dans un bureau décent et d'avoir une attitude décente devant cette personne. Donc, elle a plié. Parce que elle, c'était quand même cette personne, c'était la bras droit du préfet. Parce que c'était donc pour nous, c'était le relais le plus important avant le préfet. Donc elle nous reçoit. Donc c'était particulièrement houleux parce que la personne qui était avec nous, donc qui était un juriste, bon voilà. Et au travers de ça, ce qui, je pense, moi, a fait plier cette personne, c'est que quand tout le monde est sorti, je lui ai demandé 2 minutes d'entretien, femme à femme. Je lui ai simplement dit, madame, vous avez l'avenir de cette jeune personne entre vos mains. L'avenir est entre vos mains. Voilà. Elle m'a remercié.
On peut applaudir, oui, tout à fait. Vous pouvez. Ouais. Alors, moi, je voudrais bien que vous nous fassiez partager votre expérience avec la CNDR, Cour nationale du droit d'asile. Il me semble que vous avez eu une expérience, enfin, vous avez eu, interagir avec, enfin, à vous occuper d'un dossier d'une Nigérienne. Et est-ce que vous pouvez nous faire partager cette expérience avec la CNDA, s'il vous plaît?
C'est un cas pour nous très, très frustrant, surtout très, très triste, parce que quand cette jeune femme, comme presque toutes, est arrivée chez nous, tout était joué, tout avait été gâché. Donc, quand on a repris son dossier, qu'on a traduit, on a lu la traduction qui avait été faite pour un bénévole d'une association qui s'occupe des réfugiés politiques en général, aux réfugiés des demandes d'asile. Et j'avais soupçonné en lisant carrément une phrase qui disait « Bon, j'étais avec une femme parce qu'elle était plus âgée que moi et elle avait de l'argent. » À peu près, c'était traduit comme ça. Donc, je me suis dit quand même si c'était vrai, c'est pas une chose qu'on met dans un dossier. Et donc, quand on l'a réinterrogé avec des vrais traducteurs, et c'est avéré que... voilà, pour certains, c'était un homme. Pour certaines personnes, le fait qu'une femme soit avec une femme plus âgée, et ça veut dire que la plus âgée l'entretient. Et la phrase en question, ce qu'elle avait voulu dire, c'est que sa compagne, qui était plus âgée, et elle était propriétaire d'une maison, qu'elle avait vendu cette maison, et avec cet argent, ça les a permis de fuir son pays. Et donc après, dans l'autre pays où ils sont allés, c'était pareil, c'était terrible. Mais la question qui nous a beaucoup choqués, c'est cette imprégnation des a priori, des préjugés qui ont ces bénévoles qui font ça avec beaucoup de bonne volonté, mais il y a des cas que la bonne volonté, ça ne sert à rien. Donc là, on est vraiment très frustrés parce que la fille avait passé l'opra et elle ne savait même pas, elle n'avait pas un traducteur, elle ne savait même pas pourquoi elle avait dit que non. Les papiers qu'elle a donnés, elle ne savait même pas ce que c'était écrit et ce n'était pas ça qu'elle avait raconté. Donc là, dans ces moments, on est en train de voir la préfecture de Strasbourg, mais on n'a pas beaucoup d'espoir, on essaiera. Mais c'était ça qui est choquant, c'est que parfois nos préjugés, nos a priori, des temps sur les récits que cette personne a raconté. Donc l'effet de poser les bonnes questions, l'effet de se donner le temps, malheureusement on revient, on est des bénévoles, c'est dans les bénévolats, mais dans ces cas-là c'est une grosse association qui s'occupe des réfugiés. Donc on était très en colère contre ces personnes parce qu'une simple phrase mal traduite voilà, à ses fils, à l'accuser peut-être qu'un jour soit expulsable. Aujourd'hui elle est expulsable.
Merci. Alors si je comprends bien, donc on se confronte au moins à beaucoup de difficultés, vous confrontez à beaucoup de difficultés. Donc là au niveau de l'OFPRA, cette personne elle est arrivée avec son dossier, il y avait un bénévole interprète qui a mal interprété sa réponse parce que lui-même étant de la même culture qu'elle, cette personne n'était pas du tout de la même culture qu'elle. D'accord. Donc cette personne ne nous a pas du tout facilité la tâche. Alors qu'en amont, le dossier était bien préparé. Donc juste à cause de ça, du coup, l'OFPRA n'a pas donné le statut de réfugié à cette personne. Et du coup, cette personne s'est retrouvée à la Cour nationale, la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Je pense que je vais laisser la parole à Awa. Awa, elle est aussi une modératrice comme moi. Excuse-moi, Awa, je bafouille un petit peu. Et je te laisse la parole.
Bonjour, je m'appelle Awa et je suis demandeur d'asile. Et je dépends des lesbiennes départ des frontières. Bonjour les voix d'elle. Vous êtes une association lesbienne féministe de Grenoble qui existe depuis 25 ans. Vous vous êtes engagée depuis 2010 dans la solidarité avec les demandeurs d'asile. La première personne que vous avez défendue était un gay. Une belle solidarité s'est mise en place pour empêcher son expulsion. Et depuis, vous vous êtes impliqué avec cette lesbienne demandeur d'asile. Une seule n'a pas pu obtenir son statut de réfugié. Mais la lutte continue avec la mobilisation, son obligation de quitter le territoire français, qui vient d'être levée. Ma première question que je voulais vous poser, c'est: comment vous vous êtes rencontrés, vous les voix d'elle, avec les demandeurs d'asile?
Merci. C'est un peu le hasard qui a fait qu'une personne, donc une première personne qui était un gay qui venait du Sénégal, a cherché à contacter les associations LGBT de Grenoble pour obtenir des lettres de soutien parce qu'il était déjà sous OQTF. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas tous ces sigles, OQTF, ça veut dire une obligation de quitter le territoire français. Et il passait en jugement. Et donc il avait besoin de lettres de soutien. qui, alors je ne sais plus l'expression qu'a utilisée Judith, serait en quelque sorte des certificats d'homosexualité aux yeux des institutions et des pouvoirs publics. Et il est tombé sur la permanence des voix d'aile, et donc on était un certain nombre à cette permanence. Alors bon, j'ai commencé, comme chaque fois qu'un homme téléphone à la permanence des voix d'aile, par dire qu'on s'occupait plutôt des femmes, etc. Puis j'ai quand même écouté son histoire. Et donc, je me suis engagée à lui trouver des lettres de soutien rapidement, parce que on est toujours un peu dans l'urgence, et bien souvent, alors notamment pour notre expérience à nous, hein, bien sûr, je ne sais pas si on peut généraliser cela, les personnes qui viennent ne viennent pas forcément tout de suite. Parfois, elles viennent alors qu'elles ont déjà été refusées par l'OFPRA, qui est l'Office français pour les réfugiés apatrides, un office qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc ces personnes ont été une première fois déboutées du droit d'asile par cet office. Il y a ensuite, bien sûr, une intervention en appel à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et donc c'est entre ces deux moments que beaucoup de ces personnes sont venues nous contacter. Hein. Alors ce qui rend la chose délicate, bien sûr, parce que on est toujours dans l'urgence, hein, il faut toujours faire des courriers dans l'urgence. Et donc ce guet, c'était au mois de juin, j'ai commencé à contacter les autres associations. Si je suis trop longue, vous m'arrêtez, hein, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Voilà. Donc les associations LGBT de Grenoble, personne ne m'a répondu. Deux mois plus tard, il y a eu plein d'échanges sur la couleur des verres en plastique qu'on devait acheter pour le collectif, mais là, vraiment aucune réponse. Donc je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je suis militante dans ce collectif, je prends sur moi et je rédige un courrier donc pour ce gay. Voilà. Et puis ensuite, on a été contacté par une lesbienne l'année suivante, alors qui, elle, est allée dans les associations, j'appellerais ça généralistes, hein, d'aide aux demandeurs d'asile, donc généralistes, hétéros, enfin, je ne sais pas comment les qualifier. Et elle est tombée sur une lesbienne au placard à qui elle a raconté son histoire et qui lui a dit, bah, il faut que tu trouves des associations de lesbiennes, justement pour sortir de l'isolement, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est très important. Et elle a cherché sur Internet. Alors là, à notre grande honte, elle ne nous connaissait pas, elle ne connaissait pas les voix d'aile à Grenoble. Donc là, on s'est dit, shame on you, hein, on us plutôt. Vraiment, il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on se fasse connaître. Bon. Et elle l'a envoyée donc, dans une association qui est située en Charente-Maritime. Alors je ne sais pas si tout le monde a des notions de géographie de la France. La Charente-Maritime et l'Isère, hein, c'est à peu près aux antipodes, hein, est-ouest. Hein. Et cette association donc, en Charente-Maritime a contacté le collectif LGBT qui s'est empressé de contacter les voix d'elle parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. Et donc, on a récupéré cette lesbienne qui dormait dans la rue. Voilà. Et puis, c'est la première qui est venue avant toutes ces démarches. Voilà. Et puis ensuite, les autres donc, nous ont contactés entre l'OFPRA et la CNDA.
Ma deuxième question, c'est quelle forme prend votre solidarité ?
Alors, la solidarité peut être très diverse. Il y a bien sûr répondre aux urgences. L'urgence, la première urgence, surtout si une personne vient avant toutes les démarches, c'est de l'aider à constituer son récit, hein, puisque c'est au travers de ce récit que les différentes institutions vont statuer sur le droit d'asile. Alors, nous, on s'est dit, bon, c'est vrai, on avait absolument aucune expérience sur ces questions, donc tout ce côté administratif, connaissance des lois sur les demandeurs et demandeuses d'asile, etc., les associations généralistes le faisaient mieux que nous, on n'allait pas du tout les court-circuiter. Par contre, ces associations généralistes, elles n'étaient pas toujours au fait des questions de lesbophobie et d'homophobie. Et parfois même, il y a certaines personnes dans ces associations qui reproduisent des clichés. Hein, par exemple, une lesbienne qui a des enfants, est-ce une vraie lesbienne ? Donc une lesbienne qui arrive de l'étranger, qui a des enfants, est-ce une vraie lesbienne ? Un gay qui ne va pas sur des sites de cul, est-ce un vrai gay ? Etc, etc. Donc il y avait tous ces préjugés. Bon, qu'on essayait de déconstruire, alors là, pour le coup, auprès des personnes, hein, des associations demandeuses d'asile, et puis essayer justement alors, on ne s'est pas substitué aux personnes, hein, pour construire leur récit. En plus, on a eu de la chance de ne tomber que sur des francophones, donc qui ont rédigé leur récit toutes seules. Mais l'idée d'orienter peut-être sur certains points concernant davantage la lesbophobie ou l'homophobie, là, on pensait pouvoir être utile. Alors ensuite, autre acte de solidarité, parce que bon, il y a des personnes à qui ça peut faire peur, hein, ça, en plus rentrer dans une vie qui est souvent, ces personnes ont subi des violences, donc voilà, c'est difficile de partager ce récit avec elles. Hein, eh bien, ça peut être des actes de solidarité tout simples. Donner un vieux téléphone portable qu'on avait dans un tiroir, qu'on n'utilisait plus, un vélo, un vieux vélo qu'on avait aussi dans sa cave, etc. Parfois de la nourriture, un hébergement, si certaines personnes ont de quoi héberger d'autres personnes. Et là-dessus, je dois dire que nous avons pu compter sur la solidarité des groupes transpédéguines de Grenoble, parce que dès qu'on a eu un problème d'hébergement, on a téléphoné, dans la journée, il n'y a pas eu de souci, on a eu un hébergement pour une lesbienne. Donc là-dessus, ça réchauffe le cœur aussi de voir que y a des relations de confiance qui existent et puis que on nous a pas demandé, comme parfois dans les associations gays, mais est-ce vraiment une lesbienne ou est-ce vraiment un gay, hein, parce qu'on a eu. Alors là, ça va rejoindre peut-être le texte qu'a lu Dalila, que j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure, sur les comportements un peu impérialistes, hein, que nous avons dans nos associations. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Et auxquels nous avons essayé de réfléchir aussi aux voix d'elle. Mais là, c'est une autre question. Donc voilà les actes de solidarité.
Par curiosité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant ?
Alors, les difficultés que nous avons rencontrées, la première grosse difficulté, c'est quand un des demandeurs d'asile s'est retrouvé au centre de rétention administratif de Satolas. Hein, Satolas, c'est l'aéroport de Lyon, c'est plus près pour l'expulsion. Hein. Donc là, il a fallu organiser une grosse mobilisation, et cette mobilisation a eu lieu. Nous avons sollicité tous les partis du Parti radical de gauche à lutte ouvrière, toutes les organisations syndicales de Grenoble, toutes les associations d'aide aux demandeurs d'asile, RESF, l'ADA, la PARDAP, etc. Donc vraiment, il y a eu une grosse mobilisation. Ce qui nous a fait connaître aussi, puisque une de nos difficultés, comme je le disais tout à l'heure, c'est que alors le collectif LGBT pouvait éventuellement être connu, mais pas les voix d'elle, hein, en tant que telle. Donc ça a permis de nous faire connaître. Et puis aussi obtenir des lettres de soutien de la part de toutes ces personnes, alors des gays et des lesbiennes au premier chef, hein, ça paraît évident, ça c'est pas évident, et puis il faut redemander sans arrêt, et puis voilà, puis on a des remarques, des réflexions. On a pu remarquer, hein, avec les copines des voix d'elle qui sont ici dans la salle, que depuis ces 5 dernières années, il y avait une libération de la parole raciste dans nos associations. Et ça, pour nous, ça a été un choc. Donc, ça fait partie des difficultés qu'on a eu à affronter, hein, puisqu'il a fallu répondre à cela. Et voilà. Et donc, c'est un combat. Ça montre que c'est un combat permanent, hein, qu'il ne faut jamais se reposer. Et puis, on est dans une situation économique, politique, hein, qui fait que cette parole se libère dans toute la société et chez les gays et les lesbiennes aussi. On n'est pas vraiment différents.
Qu'est-ce que vous a donné de la force dans ce parcours de solidarité pour continuer à le mener?
Je dirais que c'est l'énergie des lesbiennes, l'énergie des femmes, de ces femmes aussi, hein, qui se battent, qui ont eu ce courage, un courage de partir de chez elles. Enfin, nous, quand elles nous ont raconté leur parcours, on ne sait pas si nous-mêmes on aurait eu ce courage-là. Hein, ça donne de la force de se dire que nous ici on est bien tranquille au chaud dans nos pays occidentaux, qu'on a pas toutes. Je suis bien d'accord. Je parle en tant que blanche. Hein, je suis désolée. Voilà, je comprends bien effectivement. Donc moi en tant que lesbienne blanche, je vais parler pour moi. Effectivement, hein, j'ai eu affaire à des questions de lesbophobie, etc. Mais je m'en suis sortie parce que j'ai mes réseaux de solidarité, de lesbiennes, familiaux, etc. Ces femmes, ces réseaux, elles en sont coupées. Alors, à ce propos, je ne sais pas si tu comptes me poser la question, mais il y a quelque chose qu'il faut bien qu'on sache aussi, c'est que ces femmes, ces réseaux, elles les recréent ici, elles ont aussi des réseaux ici. Il ne faut pas penser, hein, que nous sommes leur seule ressource, bien évidemment. Et par exemple, alors peut-être ça fait partie de nos difficultés aussi, ces femmes sont parfois dans des réseaux religieux. Alors, en l'occurrence, il y en a une que nous connaissons qui est dans un réseau catholique et une autre dans un réseau protestant. Bon, là, on est une bande de copines plutôt athées, hein, on va dire. Eh bien, voilà, il a fallu aussi qu'on respecte leurs choix, qui sont leurs choix de ville, ces choix de réseau. Alors, à ce propos, je voudrais dire que quand il y a une mobilisation pour défendre un ou une demandeur d'asile, pour le premier, on a commis l'erreur de mettre son vrai prénom, ce qui l'a coupé de la moitié de la communauté sénégalaise de Grenoble. En fait, la communauté sénégalaise de Grenoble, du coup, s'est coupée en deux. Les pros, appelons-le par son prénom, puisque maintenant, les pro-Abdou et les anti-Abdou. Donc voilà, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi peut-être qu'on échange entre nous là-dessus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, ne pas appeler les personnes par leur vrai prénom, parce que ces personnes ont leur réseau, ont leur vie en dehors de nous. Hein, c'est normal, hein, je veux dire, voilà. Et puis des réseaux qui sont aussi des réseaux dont on ne partage pas les présupposés idéologiques. Dans ces réseaux, elles sont souvent au placard. Hein, voilà, bon, nous, on peut être aussi parfois au placard.
Merci. Je passe la parole. Merci, je passe la parole à Manu.
Bonjour, moi je suis Manu et je fais partie du réseau des lesbiennes dépassent les frontières. Donc moi, je vais poser quelques questions à Judith. Donc Judith, tu es ougandaise, tu as été cofondatrice d'une association LGBT d'Ougandais et d'Ougandaises en France, et tu es toi-même aussi demandeuse d'asile, et tu fais partie aussi du réseau des lesbiennes dépassent les frontières. Donc, par rapport à ta demande d'asile, ça fait déjà 2 ans que tu es en procédure. Il y a eu un refus. Là, tu attends la Cour nationale du droit d'asile. Donc, par rapport à ta venue ici, est-ce que tu es partie parce que tu étais en danger? Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de comment était la situation en Ouganda quand tu es partie?
I'm here. I'm called Judy. I'm from Uganda and I'm here as an asylum seeker in France. As a refugee. Okay, the situation in Uganda is politically, socially, religiously denied in homosexuality. I'm going to be brief as in the situation in Uganda. So there was a bill in Uganda the last like 10 years back. It was lifetime imprisonment. Then right now, the parliament decided, and not only the parliament, the people around, the religious people, they said lifetime imprisonment is not fair. So they decided to it should be kill the gay. So we should be killed, like the homosexualities should be killed, not only to lifetime imprisonment. Basically, right now, it's still on the table, and they're going to decide. It's not yet decided. The bill is not yet decided, but it's on the table in the parliament. So it's the kill the gay bill and this situation, basically. Thanks.
Donc, tu as co-créé le collectif d'Ougandais réfugiés LGBT, je mets dans un sens ou dans l'autre, LGBT en France. Pourquoi est-ce que vous avez, dans quel contexte et pourquoi vous avez créé ce collectif?
It was not only me, it was with the other gay guy from Uganda. We created this group after the bill was coming on, kill the gay bill, immediately we formed this group to make a demonstration against the bill which was coming over. It was in December. We made this group immediately after the bill which was coming over in December. It was the second on the table in the parliament, and immediately I had to pass the information around the refugees around you, like in France, from Uganda, and I'm like, we make solidarity over the bill, and at least we can get support from the foreign countries and from people who don't know all what's happening in Uganda to get support, and so that the bill may come down. So immediately we supported, and we came together, we demonstrated, and we made a manifestation in Trocadero after this bill that was going to be passed out. And that's how the group came about. That's how the group came about. We manifested over the bill, and with this group, why we made this group, it was to send the message to most of the people who are not aware of what's happening in Uganda, to get support from the foreign countries, like to support us in there, and send some message to support the bill so that it may go away, to stop it. And also to give information about homosexuality, not only Uganda, but only in other countries. And this group also won't be like, it will be helping other refugees, not only in Uganda, but also in France, because I really get some help also from French people, so I have to do other ways. This group is there also to support other refugees, and basically it's there because of the situation we're facing in Uganda, and to get support and to give information. That's basically for the group where we created this group.
Tu fais partie aussi du réseau des lesbiennes dépasse les frontières. Quel est ton engagement dans ce réseau?
Ok. I'm in this group Lesbian Beyond Borders, and I've really moved on. Like, they have helped me. I made this group. It's the first. Actually, it was it's a network of lesbians, and after it became like a group. They tried to make a group. And it's not an association, but a network. They have really helped me, because I came here not speaking French. I didn't have where to sleep, I didn't have clothes, basically basic needs, like food, everything, basic needs for a human being. I've got support from this network, money, everything. And that's why I'm also here. For their support, I'm here. So through this support, through the network, through not only other the Lesbians Beyond Borders, but all other lesbians, like the LOGS, other associations, they gave me support. And through the support, I also support others. I may not support in money, but in anything, but there is any way I can support, like through the asylum seeking, like the process I've been in, like, and I'm going to make 2 years in it, so I can also support other refugees who are coming in from different countries. I can support in the process. I can help to give information about it in any way, like even shelter, even if it's not financially or anything, but I can give support, and I'm in this group also, Lesbian Beyond Borders. And in this group, they gave me support in a way that They escorted me in many places, prefecture, France d'Asile, Opera, many, many things, Pôle Emploi, because I did not speak French. But right now, yes, I progress, and they really helped me in it. This is the support I get from different lesbians around, and mainly from Lesbian Beyond Borders. Thanks. I'm in this group.
Bon, ben, merci. On te posera d'autres questions après.
Merci à vous.
Donc moi, je repasse la parole à Awa.
Bonsoir. Bonsoir, Faina, qui est militante sur le réseau Lesbiennes Dépassent les Frontières. Vous êtes une collectif de lesbiennes féministes qui naît à Paris en 2011. Vous avez choisi de fonctionner sous forme de réseau et pas sous forme d'association. Vous avez écrit vos bases politiques dans un texte que vous faites circuler et que je vais vous les lire. Lesbiennes, nous avons reçu des autres lesbiennes la force de nous battre et de lutter pour notre autonomie. vivant ici, étant arrivé un jour, nous sommes réunis pour accueillir celles qui arrivent en France et sont isolées et égalisées, devenues demandeurs d'asile ou sans papier. Nous refusons de cautionner la fermeture des frontières et les lois européennes, respectivement limitant la venue de nos Européens sur ce territoire. Étant lesbiennes, nous sommes en danger dans nos pays. Nous régions nos familles et nous voulons pouvoir choisir de vivre là où nous nous sentons le plus en sécurité. Là où nous pourrons nous reconstruire en espérant vivre enfin l'autonome et libre. Ce réseau est là pour que la solidarité circule et rende plus forte toutes les lesbiennes qui se côtoiseront. Nous sommes sérieux, soucieuses et structurées une solidarité entre lesbiennes efficace, rapidement et sur le long terme. Unissons-nous pour qu'aucune d'entre nous ne ressente plus ni l'isolement ni l'incapacité d'agir. Tant que toutes les lesbiennes ne sont pas libres et autonomes, aucun ne l'est. Voilà ma première question que je voulais poser à Faina. Voilà pour les principes et concrètement que ce que vous avez réussi à mettre en place.
Bonsoir. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre concrètement en place? Donc, là, je suis Faina, je fais partie du réseau Lesbiennes dépassent les frontières. Nous sommes beaucoup de copines ici dans la salle et qui font partie de notre réseau, qui, ça répond parfaitement, ça va très bien répondre à la question ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est que on met nos moyens ensemble pour soutenir les copines réfugiées et demandeuses d'asile. Ça peut être, c'est sous forme d'une caisse commune que dont les copines cotisent depuis bientôt 2 ans, qui nous permet à soutenir ponctuellement ou de manière sur le moyen ou long terme des copines quand il s'agit du logement, quand il s'agit de tout ce dont elles ont besoin pour atteindre une certaine autonomie. C'est clair, c'est peu, mais on cible ça. On essaie de cibler les cartes de transport, on essaie de cibler les téléphones portables avec des forfaits illimités pour qu'elles puissent au moins communiquer et être jointes. On essaye quand on peut et on a réussi à trouver des hébergements, donc ou bien ce sont des hébergements pérennes, ou bien ce sont des hébergements où des copines du réseau accueillent la copine réfugiée, et en fait c'est organisé, structuré d'une manière à ce que, voilà, aussi bien la copine réfugiée, elle sait où est-ce qu'elle peut aller et pour combien de temps, et la copine qui héberge, les copines qui hébergent, elles savent combien de temps ça va durer et qu'elles sont pas juste seules face à la situation, mais qu'il y a un réseau derrière et qui va intervenir au moment où il y a des conflits, où il y a des tensions, ou simplement pour, voilà, de sentir qu'on est nombreuses, qu'on est fortes et on est solidaires. On a été très rapidement... Ah oui, juste pour dire quelques mots sur les origines du réseau. Beaucoup d'entre nous ont été impliqués dans le soutien, dans la solidarité avec des lesbiennes réfugiées et sans papiers dans différents pays depuis très longtemps, depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et en fait, ce réseau, il a été créé par des copines qui se connaissent et qui ont une confiance les unes envers les autres, une confiance à la fois politique et personnelle. Je pense que c'est super important que quand on travaille, quand on fait ce travail-là et quand on veut être solidaire, à la fois d'avoir confiance en des copines avec lesquelles on travaille et aussi de toujours savoir et se poser la question du pourquoi on fait ça, pourquoi on est investi dans ce soutien et dans cette solidarité-là. Et ça a été fait depuis... suite à l'arrivée de Judith en 2011, on s'est dit qu'on va structurer ce réseau. Donc, on le fait de plus en plus où on fonctionne en groupe, de petits groupes de soutien autour d'une copine réfugiée, ainsi que des groupes plus larges où on se coordonne et on se soutient, on se passe les infos. Toutes ces choses-là. Concrètement, on a été amené également à rentrer dans les dossiers. C'est à peu près ce qui est... Sylvie, elle a parlé aussi de ça, de retrouver les incohérences dans les dossiers, de retrouver les stéréotypes, parce que souvent, les récits que les copines doivent donner à l'OFPRA, donc c'est un récit de persécution qui explique pourquoi elles demandent l'asile en France, sont bâclées, sont incohérentes, manquent d'informations, sont anachroniques. En fait, voilà, il y a des réels problèmes. Et on a été amenés à s'investir pour rendre les récits lisibles, cohérentes, clairs et augmenter comme ça les chances de ces dossiers, que ces dossiers soient acceptés en tant que dossiers de demandeuses d'asile. Et puis, on soutient. On mobilise quand les copines ont besoin d'être soutenues à la Cour nationale du droit d'asile. On mobilise et c'est notre présence qui aide souvent à ce que les juges qui sont à la Cour nationale du droit d'asile regardent favorablement le dossier, parce que très souvent nos copines sont rejetées parce qu'on les croit pas lesbiennes. La plupart du temps, on ne va pas dire que dans un pays comme l'Ouganda ou comme la Mauritanie, les lesbiennes vivent en paix. Voilà, ils savent qu'elles ne peuvent pas vivre en paix, mais qu'est-ce qu'ils trouvent à dire pour rejeter les copines? C'est que les copines ne sont pas lesbiennes. Et donc, à ce moment-là, ce que nous, on fait le travail qu'on fait, à trouver des preuves, à faire des lettres, à être présentes, c'est aussi de prouver par notre présence ici, par l'implication des copines réfugiées dans le réseau, qu'elles sont entourées d'autres lesbiennes, et que ça, c'est comme une preuve. Je pense que j'ai largement dépassé le temps.
Merci. Ma deuxième question, c'est vous êtes lancé dans des actions au niveau institutionnel. Quelle en est en raison?
Comme l'a déjà dit Sylvie, en fait, et aussi Marissa et Irène, les institutions françaises, elles ne sont pas inclines à considérer des femmes lesbiennes qui demandent l'asile comme lesbiennes et donc qui ont droit à la protection et à un statut. Et en fait, on est en train d'entreprendre, ça peut s'appeler du lobbying, ça peut s'appeler beaucoup moins fortement, en fait, à la sensibilisation des acteurs dans les institutions, à la spécificité des lesbiennes qui demandent l'asile. Donc, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais d'après ce que je sais, elles existent, mais il y a un rejet plus systématique des lesbiennes qui demandent l'asile que des hommes gays. La raison principale, c'est qu'on ne les croit pas. On va toujours dire que bah oui, tu es mariée, tu as 4 enfants, tu entretiens des bonnes relations avec ta famille, ton mari, ou on ne te croit pas que tu as dû se échapper, réfugier. Voilà. On soupçonne de venir ici pour des raisons économiques. Tout ça fait ni le fait que ces lesbiennes sont des lesbiennes et donc on leur refuse le statut. Donc notre travail, il va là. Il va exactement à essayer de rencontrer, on l'a déjà fait, on a rencontré des personnes responsables ou bien au ministère des droits des femmes, on est en contact avec le directeur du non, je vais, voilà, on va pas trop, je vais pas trop donner de détails. Le fait est qu'on essaye de rentrer en contact avec les personnes qui ont des responsabilités, qui ont pouvoir changer des politiques appliquées aux lesbiennes demandeuses d'asile, et on espère que ça porte ses fruits. Il y a des dossiers où effectivement il y a des choses qui bougent.
Moi, je suis demandeuse d'asile, mais vraiment, vraiment, je remercie les lesbiennes des par les frontières, parce que c'est à cause de que je suis là aujourd'hui. Vraiment, vraiment, je vous remercie. Okay, merci. Je passe la parole à Judith.
Bonjour, c'est à vous. Donc, j'arrive pas à dire le nom. Ulkaljik, c'est une organisation au Royaume-Uni. Donc, en fait, on n'a pas trop préparé ensemble parce que vous venez d'arriver. Donc, vous vous présentez toute seule, ça va très bien aller.
Good afternoon, I'm Erin. The organisation is UKLGIG, and we have been working since 1993 on immigration issues. So to move to asylum issues was not perhaps as difficult as it is for an organization that is more general. In 2003, we focused pretty much entirely on asylum. And I just want to say, because sometimes people don't know, that there are over 100 countries in the world where it's dangerous to be LGBT or I. And only a tiny proportion of those people persecuted worldwide what come to the UK, or for that matter come to France, to seek a safe haven, and most come only as a last resort. There has been an estimate of the number of LGBTI asylum seekers coming to the UK. It was part of a piece of research into housing needs of asylum seekers, and they admit that it could be a severe underestimate, but they say between 1,300 and 1,800 are coming each year. LGBTI asylum seekers are one of the most disadvantaged, underrepresented, and excluded groups in UK society. Many of those that we work with have been beaten, tortured, or imprisoned, prosecuted, and abused because of their sexuality. Almost all of the lesbians and many of the gay men have been raped and or genitally mutilated. Although the system in the UK is difficult for all asylum seekers, LGBTI people face specific difficulties not faced by other asylum seekers. And I'm just going to list them. Shame and secrecy about who they are. Lack of knowledge that their identity is a ground for asylum. Lack of support from either their home community in the UK or from LGBTI communities in the UK. Lack of independent evidence about both their identity and about what happens to LGBTI people in their home countries. And abuse in the detention and accommodation provided by the Home Office. The Home Office is the part of the government that deals with asylum in the UK. I'm reading what I prepared because the translators know what it is. Much of what has been said has made me think about many other things that I would like to say, and some of them very positive and perhaps encouraging for groups here that are starting to do things that we have achieved a great deal with. So, as an organization, we provide legal advice, we provide referral to expert immigration solicitors, we provide mental and emotional support and social interaction. We train refugee support and LGBTI organizations and solicitors, and we work with members of parliament and lords, we work with the Home Office and in the courts, and together with other NGOs to influence positive change in policy and in legislation. And we have been incredibly successful in these things. I'm just going to mention the legislation because it only happened in 2010, and there are not many countries in the world where this has been achieved, but the Supreme Court, which is the highest court in the UK, agreed in 2010 that lesbian and gay asylum seekers could not be returned to their home countries and told that they had to hide their sexuality. Prior to 2010, that was the situation. And it's the situation in many Western countries and perhaps European countries. You can be told to go home and lie. If asylum seekers held in detention, and I don't know how it works here, but many are held in detention in the UK, and fast-tracked through the asylum process, are not supported to prepare their case, and do not have expert legal representation, their chance of achieving a fair decision is severely jeopardized. We provide both telephone support and regular visits to detained asylum seekers. Over the years, at the request of asylum seekers, we've adopted a much more holistic approach. Although we are aware that winning their asylum claim is their and our main focus, our clients ask much more of us. Not getting support from their home communities or from LGBTI communities in the UK, and having been rejected by their birth families, our clients frequently tell us that we are their only family. With this goes a responsibility to assist them to remain strong and hopeful through a grueling, sometimes long drawn out, and sometimes unjust process. We encourage clients to use artistic and creative methods of building themselves into stronger, more capable, more confident survivors, finding new ways to express their total identity, not just their sexual identity, gives our clients the strength to endure the asylum process and the confidence to begin life anew in the UK. And part of this is about supporting each other. I'm saying the organisation, but we facilitate an awful lot of lesbians supporting each other, gay men supporting each other, lesbians and gay men together supporting each other. We support around 1,000 LGBTI asylum seekers each year. And almost all of the people that we work with who are refused, either by the Home Office or the courts, are told that their identity is not believed. That is the major reason for refusals. And I think we're going to discuss that in more detail. But I just want to say, because a lot of you are quite small organisations, and people sometimes struggle to believe that a small organisation can do all that we do. There are three of us now in 2013, but up until 2000, it was totally voluntary. For the next 5 years, we had one part-time employee. So even with very little, a great deal can be achieved. Thank you.
Il y a quelque chose que vous avez fait et que vous ne voulez plus faire. Vous vouliez nous parler de quelque chose que vous avez fait et que vous ne voulez plus faire.
I wanted to talk about our organization, a mistake that our organization made, because I think it's really, really important that we acknowledge that we're all learning all the time and that we make errors. What we do with lesbian asylum seekers is not perfect, and I hope that some of what we're going to do today is learn from each other. And so I just wanted to talk about something that we used to do and that we've chosen not to do, partly just to describe how we see it. And I guess I need to be clear that I'm not talking about women like these women speaking out of choice with a whole lot of other lesbians. I'm talking about when the newspapers and the television and the radio and conferences phone us, and they do this at least once a week, and ask us to give them an asylum seeker to speak at their event or to be interviewed or to go on television. They think that they are being terribly understanding when they say, of course they can be anonymous. So I want to say that originally we made the mistake of asking people we were working with to do this. And we didn't think about the fact that they felt indebted to us and therefore found it difficult to say no to us as an organization. But also, whilst going through the asylum process, someone seeking asylum in the UK can have told their story, including the most intimate details about their thoughts and feelings, and describing the ugly and evil things that have happened to them up to 9 times. I'm not going to list all the ways, but easily 9, sometimes more. I think once granted, most asylum seekers just want to get on with starting a life. And I know that there are a few who, despite what they've been through, are still able to feel a sense of social responsibility about speaking out. But I don't think we should have an expectation that they should. And we ask ourselves, what does needing to hear the words of asylum seekers directly say? Is it because people don't know if they believe us? Or is it the slow down to look at the car crash mentality? Is it a kind of voyeurism? We learnt that we were wrong to ask asylum seekers to stand up in public or talk to the media just so stories have a human face, that it is a kind of exploitation. And I just want to say we question ourselves all the time, because if we stop admitting mistakes and questioning ourselves, we've stopped being useful. Thank you.
Donc, je redonne la parole à Judith.
Judith Kinanga. Il y a 2 Judith. Ouais, alors, merci beaucoup. Hein. On arrive à. Malheureusement, on arrive à la fin de cette table ronde qui est très très riche de témoignages, de partages et d'émotions aussi. Donc on voilà et donc moi je voulais vous poser une dernière question de savoir au jour d'aujourd'hui vous avez je pense du recul par rapport aux actions que vous avez faites jusqu'à présent. Je pense qu'il y a certaines actions que vous avez faites qui sont confirmées, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ce que vous faites. Et certaines que vous questionnez et que vous ne cessez de questionner, et je voudrais que vous nous disiez quelques mots là-dessus.
C'est pas tellement des actions qui on remet en question. Ça veut dire, comme l'a dit Andy, on est une toute petite assoce. On connaît nos moyens, on connaît nos limitations, et personnellement, on a fait un choix. On préfère aider bien 2 personnes que mal 300. Donc encore, comme tu disais un peu au début, on a la chance d'être très bien placé à Strasbourg. J'ai dit toujours, c'est une toute petite ville où la lune est très connue, et où on a la chance d'avoir une mairie qui nous a ouvert beaucoup de portes. Et chaque fois, nous savons utiliser ces portes, et ça va être des choses très simples, comme c'est des sachets avec des culottes, broches à dents, etc. pour cette femme-là. Et donc, cette chance-là qu'on a eue, on l'a utilisée, mais la grande frustration qu'on a, c'est justement qu'on peut s'y occuper de très peu de femmes. Et donc, comment on fait pour arriver à des femmes, comme on disait avant, hein, qui n'ont pas déjà passé pour l'OFRA, qui n'ont pas été déjà rejetées dans la Cour nationale des droits d'asile, et parce que c'est beaucoup plus difficile de rattraper le coup. Que si on les prenait au début, nous on voudrait les prendre tout de suite en arrivée. C'était le cas d'une fille ougandaise qu'on a pris tout de suite, et ça s'était passé beaucoup mieux parce qu'on a pu la prendre des débuts presque à la fin avec la coordination lesbienne en France. Il y avait l'association lesbienne dépasse les frontières. Et donc la chose, bien sûr, on ne peut pas mettre dans la préfecture, voilà, on aide les femmes lesbiennes parce que d'un coup, 99 000 personnes qui sont ou ne sont pas lesbiennes viendront demander de l'aide. On ne peut pas aider. Donc, ce qu'on a fait pour éviter ça, c'est on s'est fait, et c'est quand même curieux, on a vu les premiers cas qu'on a eu avec les Philippins, c'était quand même des gays et une personne transidentitaire, et la CIMAD a appelé à la Lune, la unique association non mixte de lesbiennes qui est à Strasbourg. Parce qu'heureusement, on est connu, donc on utilise ça aussi. Et donc maintenant, on fait surtout, on est très connu au niveau des foyers, parce que parfois les femmes, quand ils arrivent, ils ne crient pas tout de suite « je suis lesbienne ». Et ils sont accueillis dans des foyers pour des femmes qui sont dans la rue, des femmes en difficulté. Donc là, on a très bonnes relations, on est très connus. Donc ce sont ces personnes qui nous les envoient, qu'en en connaissant un tout petit peu, se rendent compte qu'elles sont vraiment lesbiennes ou qu'elles sont lesbiennes ou qu'elles sont en difficulté. Donc c'est quelque chose qui nous frustre énormément. C'est pas pouvoir aider tout le monde, mais on est conscient de nos limitations. Et encore, on a eu la chance, on revient à la mairie, on a eu une toute petite subvention de 2000 euros qui est pour les femmes réfugiées. Ça nous permet, comme disait Faïne, de les payer le téléphone sans piocher de notre réseau. Et la chose qui a été très touchante pour nous, c'est qu'il y avait un adjoint au maire de droite qui nous a envoyé une carte pour dire j'ai voté pour qu'on vous donne cette subvention. Donc ça nous ouvre d'autres perspectives. Et c'est un petit peu tout ça, c'est frustration, mais on est très conscient de nos limites et on ne voudrait pas aller au-delà parce qu'on ne peut pas, malheureusement.
Merci Marisa. Merci. Faïna, au jour d'aujourd'hui, dans le réseau Les Lesbiennes dépassent les frontières, quelles sont les actions que vous allez, vous, sur lesquelles vous re-questionnez ? Je laisse la parole à Faïna.
En fait, ça va être paradoxe parce qu'on vient de commander une carte SIM pour avoir un téléphone d'urgence, donc qu'on va distribuer aux copines pour qu'elles puissent nous joindre. Donc ça sera une ligne d'urgence fonctionnante tout le temps. Et en même temps, on se rend compte que ça serait bien de vraiment pas toujours ou le moins possible fonctionner en urgence. Donc dès qu'il y a une demande, tout de suite, on se lance, on veut faire, on veut soutenir, on veut protéger, on veut faire tout un tas de choses. Et parfois, c'est important de prendre du recul, de se poser, consulter les avocates, voir réellement comment, voir aussi si une coopération avec les autres actrices, acteurs sont possibles, qui soutiennent et ne pas aller à contresens. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a bien appris à faire ou à ne plus faire. Et l'autre chose, c'est qu'on se rend compte que, comme les autres copines l'ont dit pareillement, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'investisse dans les dossiers même, et si possible au début du dossier, au moment de la constitution, parce que de rattraper des dossiers qui ont été mal faits et qui ont été rejetés à plusieurs reprises et par l'OFPRA et par la CNDA, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, au jour d'aujourd'hui, dans le collectif dans lequel tu milites, où tu es cofondatrice, quelles sont les questions que tu te poses par rapport à vos actions de militante? Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines actions que vous menez, sont confirmées. Vous savez très bien qu'elles vont aboutir, qu'elles ont abouti, pardon, et qu'elles sont efficaces. Et moi, on se demande, quelles sont les actions que vous menez au jour d'aujourd'hui, mais que vous trouvez que ce serait bien de les repenser, de les voir autrement.
I speak on the behalf of the asylum seekers, mostly like the lesbians. As in my question to the administration, where we go like OFPRA and CNDA. How should I prove? How should someone prove that she's a lesbian? Because if you say your story and someone doesn't believe, what should someone do? What should a lesbian do? That's a question to the administration, like even in UK, that's my question. And for the dream I have for me as me in my country, I wish the gay bill stops. And to add on that, after the demonstration we did in Trocadero, after the support the lesbians gave us and the gay guys in France and the other countries, the bill was on number 2 and it came to number 7. So that's, we thank you for the support. We thank every country for the support which like they immediately reacted after the bill, and the bill after on the table in the parliament was on number 2. Right now, as in I read, because the information from Uganda, it's on number 7. So I wish, I dream the bill should stop.
Alors, au jour d'aujourd'hui, juste pour faire un état des lieux, mais très rapidement, de façon succincte, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez suffisamment du recul hein, par rapport aux actions que vous menez, aux actions de solidarité. Je pense qu'il y a certaines actions qui sont confirmées, vous savez que bah, voilà, elles sont nécessaires, elles sont efficaces. Mais certaines, même vous pensez qu'il y a certaines autres qui ne le sont pas vraiment, ou bien qui vous posent question. Que vous remettez en question.
I'm sort of going to answer that question, but I think some things have been raised here that I have good and bad things to say about, really. Firstly, I just want to say thank you for creating this space where, because as an organization, we have some serious, serious questions that we feel often we have nowhere to ask. We sit and talk to each other, and I feel some of the things I want to ask you now, I really want many different honest answers to, and criticism would be great. So thank you for creating this opportunity with this forum. And some you asked a question, well, talked about the challenge of reaching women, and it was a challenge for us. We were very aware that there's something like 20% of our clients were women and all the rest were pretty much. We had a few trans and intersex clients, but generally were gay men. And it upset us, and we did question. We did say, is it because women struggle to leave countries? Is it in fact because there are fewer women in the UK than there are gay men? And that could have been a possibility. And we did a lot of things which I don't want to waste my question time talking about because it's written down, you can have it. What we did, how successful it was, and how our organization had to change to manage that. But we've done it and there's an answer that was successful for us. So I actually want to raise the things that are more difficult for us. And I need to talk a little bit, and I think it's the same in France, about how the asylum system works in the UK. And I can tell already that the biggest issue is proving that you're a lesbian. So you do have to prove your sexual or gender identity. You have to prove that your country is dangerous, which occasionally for people we work with is not straightforward. For many, it is straightforward, but occasionally that is a problem. You also have to prove, which we find absurd, is that there's nowhere else in your country that you could go to be safe. So you come from this part of a country that persecutes LGBTI people, and you can go to this part and you'll be okay, which, yeah, it's absurd. So the things about the country are not our biggest problem. The things about proving that someone in this, we'll talk just about lesbian, is obviously for women here and for us the biggest issue. And how do you prove your sexual or gender identity? The short answer is that you can't. You can't, absolutely. You could present evidence of sexual relations, like our client who managed to jam the Home Office's fax machine. He sent so many photos of himself having sex. But anyone can have sex with someone of the same gender. You can use the evidence of those who know you. but they could be lying for you. You can use medical evidence of torture, for example, but as I heard a judge say to a woman who had had bleach poured over her by police because she, quote, obviously wanted to be white, her scarring could be self-inflicted. Many of our clients have married because of family pressure, making them far less able to fit the narrow and rigid box that we, the government, the Home Office, the courts, create that defines LGBTI asylum seekers. Ultimately, it comes down to credibility. Is your story one that I can believe? In our work, we constantly struggle with and have many lengthy, wine-fueled discussions about the damage done by being forced into a sexual or gender identity at all, let alone the narrow and limited view of what that is imposed on our clients. I am really nearly done, but I think sometimes it helps to have examples. So I do want to talk about, we have a young African client who is well educated and from a middle class and comfortable background. She was married by her family in her late teens to a man of social and political influence. She has a child. In her home country, she met a lesbian tourist and had a brief infatuation. Her husband regularly beat her and raped her. It became so serious that her mother decided to pay an agent to get her and her child out of the country. When it came time to leave, the agent refused to take the child, so she left him with her mother. Her husband has since taken the boy and refuses to allow her family any contact with him. The agent took her first to Denmark, where he raped her repeatedly and sold her for sex. Travelling across Europe, she was passed from agent to agent, who all raped her and sold her. When she arrived in the UK, she was arrested for entering with false papers and sent to prison. In prison, she was surrounded by lesbians and knew for the first time a sense of understanding and belonging. Sadly, she says that the safest she has ever felt in her life was in a UK prison. In appearance, she is indistinguishable from any pretty young straight woman. How does she prove her sexual identity? I'm going to leave the rest. I'm going to talk. No, I have to stop. Damn. Can I just say that the artwork, the drama and art and theatre that we do with people is the way that we cope with restricting people's identity. We as an organisation have decided we have to have an avenue for all the rest. Thank you.
Merci. Sylvie, c'est à toi de prendre la parole.
Alors, nous, ce qui a bien marché, qu'on a envie de continuer de faire, puis ça recoupe un peu finalement ce que Faina a dit, par exemple, c'est le travail envers les politiques. Parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que j'aurais eu plein de choses à dire encore et j'avais déjà beaucoup parlé. On a sollicité les élus, hein, le pouvoir mâle. Il faut aller le voir de temps en temps. Voilà, ça peut aussi nous servir. Il faut s'en servir. Et donc, notamment, tu y as fait allusion, Awa, tout à l'heure, nous avons obtenu la levée d'OQTF de la seule lesbienne qui, pour l'instant, a été déboutée du droit d'asile parmi ceux avec lesquels nous avons travaillé, grâce à une intervention de ces députés qui ont sollicité le ministre de l'Intérieur soi-même. Et donc, j'ai une copie du courrier de Valls, demandant à ce que le cas de cette personne soit réétudié par le préfet de l'Isère. Voilà. Donc, c'est pas de la compromission, rassurez-vous, on n'a rien donné en échange, hein. On a pris, c'est tout, et on se contentera de prendre. Mais je crois que ce travail de lobbying, peut-être, serait même à généraliser dans d'autres départements. Et j'enjoins toutes vos associations à aller voir les députés, à leur parler de ces questions de la demande d'asile pour les réfugiés LGBTI, et puis essayer de faire avancer la loi, hein, sur ces questions-là. Alors après, évidemment, il y a des choses qu'on aimerait mieux faire. trouver du temps à accorder aux personnes une fois qu'elles ont obtenu la demande d'asile, parce que c'est vrai qu'on est peu nombreuses, on est un petit groupe à s'occuper de cette question à Grenoble, même si dans les temps forts on a eu les grosses forces de l'association qui sont venues à la mairie, etc., etc. On se retrouve quand même à un petit groupe pour les tâches quotidiennes, tout ce que nous vous avons décrit. Et donc l'idée serait d'étendre ce réseau-là. Et puis pour que les copines qui ont obtenu ou pas le droit d'asile, on continue à avoir des relations lesbiennes avec elles, amicales, féministes, etc. Voilà, c'est un petit peu le problème qu'on a.
Merci beaucoup. Merci toutes de votre intervention. Je sais, c'est un peu frustrant parce qu'on voudrait dire plein de choses et le temps est compté. Je suis vraiment navrée. On voudrait que vous interagissiez avec le public. Donc, si vous avez des expériences à nous faire partager, n'hésitez pas. Par contre, je suis désolée, c'est très frustrant. Je pense qu'on va prendre deux ou trois questions, pas plus, parce que le temps nous est compté. Mais ultérieurement, elles sont disponibles. Vous voyez ? Tout de suite, là, quand la table ronde se termine, elles sont accessibles, disponibles, et vous pouvez continuer la discussion.
I'm sorry, but because you stopped me, I did not ask my difficult question that I want your answer to. In the UK, many heterosexual people are claiming asylum, pretending to be gay or lesbian. It is not a fantasy. They are coming to our organization. And I know we talk about how difficult it is to work with gay men and with trans and all the rest, but I get incredibly angry about straight people stealing first our identities and then something that we have struggled so hard for over so many years, to give themselves an advantage. So the question is, how do we judge who is genuine? Thank you.
Bonsoir, je voudrais donner une information que peu de gens connaissent. En fait, la Commission européenne, en l'an 2000, a fait un projet, une énorme enquête sur quelles sont les populations les plus discriminées dans l'espace européen, et qui a été menée entre 1996 et 2000. Et elles sont arrivées à la conclusion que c'était donc les lesbiennes migrantes ou issues de l'immigration. Et c'est de là qu'est né le projet Les Migras, dont est né le film Luciole pour la France. Il y avait un film fait par Lesben Beratung, il y avait donc l'Allemagne, l'Autriche, avec une association où il y avait 17 nationalités, donc de lesbiennes migrantes ou issues de l'immigration. Et donc, on m'a appelé pour travailler pour la France, pour le projet Luciole. Moi, j'ai essayé de savoir pourquoi la Commission européenne, d'un seul coup, s'intéressait aux lesbiennes migrantes ou issues de l'immigration. En fait, le projet de la Commission européenne, c'était de faire une importation massive de lesbiennes issues des pays où elles étaient torturées, assassinées, massacrées, parce que c'était une main-d'œuvre bon marché, extrêmement éduquée, extrêmement sage et docile du point de vue des patrons, et qui donc pouvait accepter des emplois à haute valeur ajoutée, parce qu'il y a beaucoup étaient docteurs d'État ou qui étaient à l'université pour accepter des emplois, par exemple, dans l'informatique, dans la communication, à des prix qui étaient divisés par 4 par rapport aux locaux. Et donc, c'est pour ça que la Commission européenne a financé ce projet. Donc, moi, j'ai dit, je vais quand même y participer. En ayant la sensation de collaborer à un projet dégueulasse, donc je me suis bien gardée dans la glace, mais je me suis dit ça permet de rendre visibles des femmes qui sont invisibles dans l'histoire du mouvement féministe et lesbien. Donc j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de faire le film Fireflies Luciole, qui a été vu dans 100 villes d'Europe, et toute la diffusion a été faite par Amnesty International, la Fondation Rosa Luxembourg, l'Alliance internationale des femmes et des associations. Et je vous promets que, par exemple, la tournée en Europe de l'Est... Oui, je finis juste. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'était une minute de silence pour rendre hommage à toutes lesbiennes, puisqu'il y a déjà deux lesbiennes sud-africaines qui ont été assassinées ces dernières 48 heures, j'ai reçu les mails, donc qui sont en ce moment même où nous nous réunissons, où nous parlons, massacrées, torturées, violées. Donc s'il vous plaît, mesdames, on se lève et on fait une minute de silence en hommage à toutes ces femmes courageuses qui essayent d'être lesbiennes malgré tout. Merci.
Merci beaucoup, Dalila Kadri, de cette initiative. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Oh. Encore deux questions. Merci beaucoup. Qui est-ce qui veut prendre la parole?
Moi, je veux juste ajouter une toute petite chose pour dire à tout le monde ici que, quelle que soit la ville où vous êtes, la province où vous êtes,
est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît?
Il n'y a pas forcément besoin d'une grosse organisation pour soutenir les demandeuses d'asile. Il suffit parfois de leur faire des lettres de soutien. Parce que, en fait, la CNDA, je crois qu'ils savent très bien aussi que l'orientation sexuelle ne se prouve pas et ils essayent de se faire une conviction.
Oui, simplement, dans 3 ou 4 réponses positives de la CNDA pour accorder le statut réfugié à des personnes qu'on a défendues, ils ont mentionné clairement que les lettres de soutien d'associations de lesbiennes et les témoignages de lesbiennes de ces associations jouaient énormément en la faveur de leur décision. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple à faire. On n'a pas besoin de faire une grosse organisation et ça fonctionne. Et je veux juste ajouter que nous, on s'est posé la question, mais à la limite, on se fiche complètement de savoir si la personne est lesbienne ou pas.
Merci. Une troisième question et la dernière, s'il vous plaît. Qui est-ce qui veut intervenir?
Ce n'est pas une question, c'est une information. Le lobby européen des femmes, je ne sais plus en quelle année, il y a 4-5 ans, avait décidé que le sujet de l'année, c'était sur les femmes menacées dans leur pays, dans leur corps, menacées dans leur pays. Et là, vous avez fait une campagne auprès de l'Europe pour que ces femmes-là, que leur intégration dans les pays d'accueil soit facilitée. Et je me souviens qu'à cette occasion, la branche française du lobby européen des femmes était intervenue auprès de Catherine Vautrin, qui était à l'époque secrétaire générale des droits des femmes, ou je ne sais pas quoi, ce n'était pas un ministère, et que c'était une femme arménienne qui vivait depuis 10 ans en France, qui avait un boulot, qui vivait avec une amie, et qui était menacée d'être renvoyée dans son pays, et où elle était, évidemment, en Arménie, les lesbiennes ne sont pas bien accueillies. Et donc, le lobby européen des femmes en avait parlé à Catherine Vautrin, et dans les 15 jours, cette femme-là avait obtenu sa carte de séjour. Donc, il faut s'adresser aux grandes organisations qui existent, qui recouvrent 80 associations, des milliers de femmes qui militent en France, et en Europe, c'est 2000 associations. Qui sont représentés au lobby européen des femmes. Il ne faut pas du tout négliger cette organisation-là.
Merci de ton intervention. Merci. Je pense, on vous remercie toutes. Hein. C'est vraiment, ces échanges sont vraiment très, c'est des échanges dynamiques et nécessaires. Ça nous apprend plein de choses par rapport à nos différentes actions solidaires, même si elles se rejoignent. D'une façon ou d'une autre. Je pense que cette table ronde peut se... Comment dirais-je? Dans le prolongement de cette table ronde, de ce sujet, migration, réfugiés, quelle solidarité, je pense qu'il y a une autre question qu'on peut se poser et qui peut faire aussi l'objet d'une autre table ronde, c'est comment faire pour créer des relations de solidarité qui nous unissent les unes des autres et qui cassent les barrières construites par les États, les cultures, les situations très inégales dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Merci de votre écoute et merci de votre participation. Bonne soirée. Merci.